Bonjour à chacun et chacune. Camila Gross avec vous pour cette prochaine demi-heure consacrée à l'amour conjugal et à la place que prend Dieu dans la vie des couples chrétiens. C'est l'abbé Pierre d'Escouvement que nous entendons. Il est venu animer une retraite pour couples et pour fiancés à la communauté du Verbe de vie à Pensier. C'est là que je l'ai rencontré pour vous, dans une belle ambiance priante, silencieuse et chaleureuse. Père d'Escouvement, bonjour.
Bonjour.
Vous venez à Pensier animer une retraite sur l'amour que l'on vit au milieu des difficultés conjugales. Vous êtes prêtre depuis un certain nombre d'années. Comment pouvez-vous prétendre parler de la vie conjugale alors que vous-même, vous n'êtes pas marié ?
Objection très intéressante. C'est vrai qu'à une époque où l'on privilégie l'expérience vécue, comment un prêtre peut-il parler de réalité qu'il ne connaît pas personnellement ? Mais je n'ai aucun scrupule à répondre que je ne parle pas en tant que conseiller conjugal, mais en tant que prêtre, c'est-à-dire que je donne un éclairage évangélique sur ces réalités du mariage, du couple, de la famille. D'autre part, je peux dire sans orgueil qu'étant donné le nombre de confidences que j'ai reçues de la part de couples, je connais beaucoup de problèmes qui se posent à l'intérieur d'un ménage. Et j'ai l'avantage de pouvoir en parler sans aucun complexe de supériorité, puisque ne sachant pas ce que c'est que de supporter une femme 24 heures sur 24, je ne fais pas le malin vis-à-vis de toutes les difficultés conjugales ou parentales. Voilà.
Est-ce qu'il y a des difficultés spécifiquement liées à la vie conjugale, ou est-ce que ces difficultés se retrouvent dans tout type de relations humaines ?
Oh, voilà une question comme on ne pose pas souvent, mais que j'aime bien. Il y a effectivement des difficultés qui sont tout à fait classiques. Par exemple, les tentations de jalousie qui peuvent exister dans un couple parce que tout d'un coup, une femme reçoit un salaire supérieur à celui de son époux. Ça peut provoquer chez celui-ci une certaine tentation de jalousie. Bon, les preuves que l'on a parce qu'on apprend subitement qu'on a une maladie très grave qui est difficilement guérissable, c'est une difficulté qui atteint le couple, ou bien les difficultés dues au chômage. Par contre, il y a des difficultés spécifiquement conjugales, spécialement dans le domaine de l'entente, parce qu'il n'est pas facile à un homme d'accepter la psychologie féminine et réciproquement. Vous savez par exemple que les femmes aiment énormément le détail. Quand un homme revient du travail, sa femme lui demande « Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, chérie ?» Et l'homme a tendance à répondre par les choses essentielles. « Mais ce sont les détails qui m'intéressent. » Et les hommes ont une sacrée tendance à négliger le détail. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à la fin d'une réunion, on demande souvent à l'homme de faire la synthèse parce qu'il ne s'embarrasse pas des détails. Mais je reconnais que, grâce à sa perception des détails, la femme remarque des choses très importantes qui échappent au regard de l'homme. Par exemple, lorsqu'un enfant a des difficultés, la femme le voit à travers un tout petit détail de sa physionomie. L'homme ne voit rien du tout. Donc, cet amour du détail chez la femme n'est pas du tout un défaut, c'est un trait de caractère que l'homme doit accepter, et c'est parfois une difficulté. Hein ? A fortiori, dans les rapports proprement sexuels, bon, vous savez bien que le rythme de la femme n'est pas le même que le rythme de l'homme. L'homme doit par exemple accepter que la femme ne supporte pas qu'on passe directement du canapé à l'alcôve. Les hommes ne savent pas à quel point ils doivent respecter la lenteur de la psychologie féminine sur ce point-là. Une femme, je pense, a besoin d'être longuement caressée gratuitement avant de passer à l'étreinte sexuelle. Et ce sont des difficultés spécifiquement conjugales, évidemment. Hein ?
Pourrait-on dire que ces difficultés conjugales sont fondées sur la différence ? On a de la difficulté à se rejoindre.
Ces difficultés conjugales sont dues en partie à la différence de la psychologie masculine et de la psychologie féminine, mais elles sont dues aussi à un tas d'autres facteurs, notamment à tous les facteurs liés au tempérament ou à l'éducation. Vous avez des femmes qui sont extrêmement extraverties avec des hommes introvertis et réciproquement. Bon, et puis l'éducation. Les hommes et les femmes, c'est très curieux, ou bien reproduisent l'éducation qu'elles ont elles-mêmes reçue, ou bien au contraire sont tellement en réaction contre cette éducation qu'elles font exactement le contraire. Vous avez des parents qui ont tellement été serrés, qui ont tellement reçu une éducation autoritaire, qu'ils se promettent d'être très cool avec leurs enfants. Et du coup, ils deviennent trop cool. Ils laissent faire à leurs enfants des choses qu'ils ne devraient pas laisser faire. Ou bien au contraire, vous avez des parents qui reconduisent absolument l'éducation qu'ils ont reçue. Je pense à un ancien élève qui se plaignait d'avoir été presque martyrisé, d'avoir reçu une éducation beaucoup trop sévère de la part de son père qui était militaire. Il est encore plus exigeant vis-à-vis de son fils. Il ne s'en rend pas compte. C'est très curieux tout ça. Et alors c'est vrai que ça provoque des discussions conjugales, parce que l'homme et la femme n'ont pas forcément la même façon d'éduquer l'enfant.
Découvrement, il semble que dans la vie conjugale, il y a inévitablement des difficultés. Est-ce qu'il y a une vie conjugale spécifiquement chrétienne ? Est-ce qu'il y a une différence ?
Il est évident qu'il n'est pas nécessaire d'être chrétien pour s'aimer énormément, et même pour se pardonner. C'est vrai que le pardon peut exister chez des couples non chrétiens, et je m'en réjouis. Je m'en réjouis d'autant plus que je pense que le Saint-Esprit agit également chez les non chrétiens. Et donc, les chrétiens n'ont absolument pas le monopole de l'amour conjugal au top niveau. Mais, quand on a la chance d'être chrétien, le regard que l'on porte sur le conjoint est différent. Je m'explique. Ce regard est d'abord un regard eucharistique. Un homme n'a pas besoin d'avoir la foi pour aimer énormément son épouse, mais celui qui est chrétien va la recevoir avec une nuance d'action de grâce. « Seigneur, c'est-il formidable de faire une femme aussi jolie, aussi belle, aussi gentille, aussi délicate ?» Donc il va la recevoir non seulement comme le fruit de l'éducation de ses beaux-parents, mais comme un véritable cadeau que Dieu ne cesse de lui donner chaque jour. Regard eucharistique. D'autre part, il va vivre les actes de patience qu'il doit faire d'une autre façon. C'est-à-dire que s'il croit à ce grand mystère de la Providence, il sait que les agacements provoqués par le conjoint sont des agacements mystérieusement permis par Dieu. Donc il va les accepter beaucoup mieux, le mari va beaucoup plus accepter les agacements que sa femme lui procure, parce qu'il sait que c'est Dieu qui, derrière tout cela, agit, c'est Dieu qui le permet. Et non seulement Dieu le permet, mais je peux offrir à Dieu le sourire que je conserve au milieu des piques que m'envoie mon épouse, au milieu des épreuves que procurent mes enfants. C'est le grand mystère de la souffrance rédemptrice. Les époux chrétiens osent croire, avec le curé d'Ars, que toutes les épreuves dont Dieu permet la présence dans leur vie sont des épreuves qui peuvent être offertes au Père. Dieu n'aime évidemment pas nos souffrances, mais le sourire que nous conservons au cœur de nos souffrances est quelque chose qui lui plaît et qui sauve le monde. Ça, c'est vraiment spécifiquement chrétien. D'autre part, les époux savent qu'ils ne sont pas tout seuls pour aimer, que Jésus vient aimer en eux. Le jour de leur mariage, le prêtre a étendu les mains sur eux après l'échange de leur consentement. Il a invoqué finalement l'Esprit Saint pour que leur cœur soit transformé par l'Esprit Saint, pour que leur cœur de pierre devienne un cœur de chair, pour qu'ils puissent s'aimer l'un l'autre avec le cœur même de Jésus. Ce n'est pas moi qui aime ma femme, c'est Jésus qui aime en moi. Ce n'est pas moi qui aime mon mari, c'est Jésus qui aime en moi. Ça, c'est vraiment quelque chose de spécifiquement chrétien. Et donc, lorsqu'ils seront en difficulté, ils demanderont à Jésus de venir renouveler leur amour. Et puis, ils sont sûrs que le Seigneur ne veut pas qu'ils divorcent. Bon, il peut y avoir des cas, saint Paul le prévoit lui-même, où il faut se séparer parce que la vie commune devient impossible. Mais ils font foi à ce que Jésus a dit. Jésus a interdit le divorce. Et par conséquent, lorsqu'ils sont très tentés par le divorce, ils disent, Seigneur, ce n'est pas ta volonté, donc va faire l'impossible pour rester ensemble. Dans la mesure du possible, hein. Encore une fois, il y a des cas où la vie commune devient un enfer et il faut absolument se séparer.
Pourquoi le mariage chrétien est-il indissoluble ?
Oh, voilà une très belle question. Pour deux raisons. Une raison naturelle et une raison surnaturelle. D'abord, je rappelle que en interdisant le divorce, Jésus a fait scandale. Je rappelle les faits. À l'époque de Jésus, la loi de Dieu, le livre du Deutéronome, autorise le divorce. Si tu trouves chez ta femme une tare à lui imputer, dit la loi, tu peux la répudier, à condition de lui donner un acte de répudiation pour que ton épouse puisse convoler en juste noces avec un autre homme sans être taxée d'adultère. Mais il y avait discussion sur la tare qui permettait à un homme de répudier sa femme. Les uns disaient « une soupe mal cuite, ça suffit », les laxistes. Les autres disaient « une grave incompatibilité d'humeur », les plus difficiles, un adultère ou trois adultères dûment constatés. Et l'on vient demander à Jésus, chapitre 19 de l'Évangile selon saint Matthieu, « à ton avis, quelle est la tare pour laquelle on peut répudier sa femme ?» Les auditeurs s'attendaient à ce que Jésus donne une raison moyenne, grave incompatibilité d'humeur. Et vous connaissez la réponse de Jésus, on n'a jamais le droit de répudier sa femme. Nous nous sommes étonnés par la hauteur à laquelle le Seigneur met la barre pour l'amour conjugal, mais les premiers auditeurs ont été étonnés par l'audace de cet homme qui se permettait d'envoyer promener la loi. Et alors, quelle est la raison que Jésus indique ? À l'origine, il n'en était pas ainsi. Autrement dit, pour les chrétiens, le mariage est de soi indissoluble. Comme dit Jésus, c'est à cause de la adoritiam cordis, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a permis leur divorce. Mais ce n'est pas dans la nature des choses qu'il soit que le divorce puisse exister. Donc, de soi, le mariage est indissoluble. Mais d'autre part, le mariage chrétien est un sacrement, c'est-à-dire qu'il est le symbole, le signe, le sacrement du mariage indissoluble que le Christ a contracté avec son Église. Quand des époux acceptent le mariage à l'Église, ils acceptent d'être dans le monde les icônes de cet amour indissoluble entre le Christ et l'Église. C'est une responsabilité terrible. Comme disait un jeune au cours d'une instruction religieuse, d'une interrogation de culture religieuse, si les époux chrétiens pouvaient divorcer, ce serait le signe que le Christ peut divorcer avec son Église. C'est ce que dit saint Paul dans le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Le mariage chrétien est un symbole, un sacrement du mariage, de l'union nuptiale entre le Christ et l'Église.
Père Descouvement, vous disiez que les mariés sont appelés à découvrir un jour que leur cœur ne peut être comblé par leur conjoint, mais par Dieu seul.
C'est vrai. Un jour ou l'autre, les époux chrétiens doivent découvrir finalement que leur conjoint n'est pas le bon Dieu. Je prends un exemple. Au cours d'une retraite, un homme dit devant tout le monde le dernier soir « Je viens de recevoir la surprise que j'attendais en vain depuis le début de la retraite. J'ai renoncé ce matin à être l'idole de ma femme. » Et il nous explique que pendant des années, il ne supportait pas que sa femme consacre 10 minutes, un quart d'heure tous les jours à prier dans son coin prière. Tu n'es quand même pas une carmélite, tu n'es quand même pas une clarisse. Tu as donc besoin d'aller trouver auprès de Dieu un bonheur dont je ne suis pas la source. Je trouve ça inadmissible. « J'ai capitulé ce matin, dit-il devant tout le monde. J'ai renoncé à être l'idole de ma femme. J'ai renoncé finalement à ce que ma femme ne trouve qu'en moi son bonheur. » Et un jour ou l'autre, il faut s'apercevoir que Dieu seul peut combler le cœur d'un homme ou d'une femme. J'ai même célébré un jour un mariage en faisant une homélie là-dessus. Parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer un surdoué dont j'ai été le professeur. Ce n'était pas son professeur de mathématiques, hein, mais c'était un gars qui a découvert des choses en mathématiques que ne découvrent que quelques personnes au monde, qui fait partie du cercle Bourbaki, un cercle international qui réunit les grands mathématiciens du monde. Eh bien, il a exigé que je fasse son homélie de mariage là-dessus. Parce que, en terminale, il avait découvert la vérité du mot de Roger Schutz, le prieur de Thésée qui vient d'être assassiné. Il y a en tout être humain une part de solitude qu'aucune intimité humaine ne peut combler. Un jour ou l'autre, il faut se rendre compte que Dieu seul peut combler le gouffre infini de notre cœur, dirait Blaise Pascal. Et donc, même les époux les plus unis, les plus heureux, qui connaissent même souvent l'harmonie sexuelle dans leurs étreintes, se rendent compte qu'il y a un je ne sais quoi qui ne peut être comblé que par Dieu. Et c'est ce qui fait que les époux chrétiens ne sont pas étonnés de n'être pas pleinement comblés par leur relation conjugale. Et alors c'est intéressant quand cela est vécu par des gens qui sont très très heureux dans leur foyer. Ce n'est pas réservé aux gens malheureux qui vont chercher en Dieu une consolation, parce qu'ils sont malheureux dans leur ménage, mais c'est intéressant quand ce sont justement des gens très heureux qui se rendent compte qu'il y a un je ne sais quoi dans leur cœur que Dieu seul peut combler. Il n'y a pas que les religieuses à découvrir que Jésus est leur époux, justement. Nous sommes tous membres de l'Église, épouses du Christ.
Père Descouvement, si on sent que le cœur ne peut être comblé que par Dieu, est-ce que cela veut dire qu'on est automatiquement appelé à la vie religieuse?
Bien sûr que non. La vocation ordinaire, justement, c'est de découvrir l'amour de Dieu à travers l'amour nuptial. Dire que tu m'aimes, chérie, mais le Christ Jésus m'aime encore plus. Qu'est-ce que je suis bien dans tes bras? Qu'est-ce que nous sommes heureux ensemble? Quelle merveille que l'amour nuptial! Mais un jour on découvre que Jésus est présent dans notre couple et qu'il y a quelque chose que lui seul peut nous donner, que nous sommes entourés par un grand manteau de tendresse qui est Jésus lui-même. Nous sommes tous dans le Christ Jésus. Et j'explique souvent que l'Eucharistie, c'est un véritable repas nuptial. C'est-à-dire que lorsque l'homme et la femme vont participer à une Eucharistie, ils se laissent l'un et l'autre embrasser par Jésus. Bien sûr que cette embrassade, que cette union de l'Eucharistie ne provoque pas chez eux des mois charnels, sinon ils seraient obligés d'aller voir leur psychiatre. Mais il y a une joie profonde à être embrassé par Jésus. Jésus nous embrasse en l'Eucharistie. D'ailleurs, à la fin du XIXe siècle, on répandait beaucoup chez les enfants des images représentant Jésus en train d'embrasser le premier communiant ou la première communiante. Lorsque Thérèse parle de sa première communion, elle dit « qu'il fut doux le premier baiser de Jésus à mon âme ». Mais toutes les petites filles de sa génération auraient pu le dire, parce qu'on enseignait beaucoup cela, que la messe, c'est Jésus qui nous embrasse. J'expliquais ça dans un sermon il y a quelque temps. Une petite fille de 5 ans dit à sa maman, à la sortie de la messe, « si je comprends bien, maman, tu prends le pain et ça fait plein de bisous à l'intérieur ». Elle comprenait que communier, elle comprenait dans sa petite tête de 5 ans, que communier, c'est se laisser embrasser par Jésus.
Père Descouvement, dans la vie conjugale, Jésus est comme le foyer de l'amour.
Oui, il est à la fois le foyer de l'amour, mais il est plus que le foyer de l'amour, voyez. Parce que c'est vrai que Jésus est source de l'amour, mais il est aussi celui qu'on a le droit d'aimer plus que tout. C'est le grand paradoxe célébré par saint Paul dans l'une de ses épîtres où il dit que ceux qui se marient soient comme s'ils ne s'étaient pas mariés, que ceux qui achètent comme s'ils ne possédaient pas. C'est-à-dire qu'un jour ou l'autre, les époux doivent considérer que Jésus n'est pas seulement le moyen de s'aimer l'un l'autre, la source de leur amour, mais qu'ils ont le devoir, eux aussi, d'aimer Jésus par-dessus tout. C'est une grande découverte que font les époux un jour ou l'autre, que même s'ils n'ont jamais pensé à la vie religieuse, que s'ils sont pleinement heureux dans leur couple, ils ont le droit et le devoir de penser que Dieu mérite d'être aimé par-dessus tout. Et ils ne se mettront à faire oraison dans leur vie de couple qu'à partir du moment où ils considéreront que eux aussi ont le droit de passer du temps, de perdre du temps, de consacrer du temps à cet amour du Seigneur, qu'ils ont le droit et le devoir d'aimer Dieu plus que tout.
Le droit et le devoir d'aimer Dieu plus que tout, plus que ses enfants même.
Plus que ses enfants. C'est le drame, justement, de beaucoup de couples dont les enfants quittent le foyer familial, qui ont tellement fait de leurs enfants leur idole, qu'ils se retrouvent tout bêtes au moment où leurs enfants quittent le foyer familial. Et ils risquent malheureusement justement de mettre trop la main sur leurs enfants mariés, de ne pas leur laisser vivre l'indépendance. Non, autrement dit, Dieu seul est Dieu, mais ça demanderait presque toute une autre émission. Hein, nous vivons à une époque d'humanisme athée, aurait dit le cardinal Lubac. On a tendance de faire de l'homme la valeur suprême. Non, c'est Dieu qui est la valeur suprême. Beaucoup de parents, hélas, je ne les critique pas puisque je ne suis pas moi-même parent, risquent de dire à leur enfant, tu sais, l'essentiel c'est d'aimer l'homme. Seulement pour aimer l'homme, il vaut mieux que tu ailles à la messe de temps en temps parce que ça va t'aider à aimer les autres. Si Dieu n'est qu'un moyen d'aimer les autres, il n'est plus Dieu. Il faut un jour découvrir que Dieu seul mérite d'être aimé par-dessus tout. Et que, à l'intérieur d'un foyer, l'amour de l'homme, l'amour de la femme, ne doit pas empêcher cet amour préférentiel pour Dieu. Et de même que, même si on consacre le plus clair de son temps à ses enfants, quand on est père ou mère de famille nombreuse, il faut passer aussi du temps à aimer Dieu de tout son cœur, et non pas seulement de toutes ses forces.
Père d'Escouvement, comment Dieu nous aide-t-il à traverser les difficultés de la vie conjugale, les épreuves ?
Bien, je pense que la paix que le Seigneur promet à ses enfants, je vous donne la paix, mais pas comme le monde la donne, c'est une paix provoquée par des convictions. J'insiste beaucoup sur le fait que, tout en étant un fruit de l'Esprit-Saint, la paix vient dans notre cœur parce que l'Esprit-Saint fait retentir dans notre cœur des paroles du Verbe auxquelles nous avons l'audace de croire. Si les chrétiens sont capables d'être sereins dans leurs épreuves, c'est qu'ils croient à des vérités incroyables mais vraies qui se trouvent dans la Bible. C'est la parole de Dieu qui est source de leur paix. Et notamment, ces deux grands mystères que j'aime bien prêcher aux couples, le mystère de la divine providence et le mystère de la valeur rédemptrice de nos croix. Toutes les épreuves que nous rencontrons dans notre vie, y compris les épreuves conjugales, sont permises par un Dieu d'amour qui sait ce qu'il fait. Tout est grâce. Comme disait le curé d'Ars, que ce soit le curé, le vicaire, votre femme, votre mari, vos enfants, qui vous éprouvent, c'est toujours Dieu qui permet cette épreuve. Bon, et il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, dit saint Paul dans la première aux Corinthiens. Et non seulement c'est Dieu qui permet cette épreuve, mais mystérieusement, par Jésus, avec lui et en lui, vous pouvez offrir cette épreuve à Dieu. Plus exactement, le sourire que vous conservez au milieu des épines de votre vie, ça sauve le monde. Je pense par exemple à des foyers, à des personnes divorcées qui appartiennent à la communion Notre-Dame de l'Alliance, qui existe également en Suisse. Ce sont des personnes qui souffrent terriblement de l'échec de leur foyer, des femmes ou des hommes qui se sont mariés avec l'idée de fonder un foyer solide où les enfants pourront s'épanouir à merveille. Le foyer éclate, ils se divorcent. Au besoin, ils se défendent avec l'appui d'un avocat pour que l'autre respecte ses engagements financiers. Donc ce ne sont pas du tout des idéalistes, mais ils osent croire que le sourire qu'ils conservent au milieu de cette épreuve qui les atteint au plus vif d'eux-mêmes, elle n'est pas inutile. J'achève en mon cœur d'époux ou d'épouse, blessé, trahi, j'achève en mon cœur ce qui manque mystérieusement à la passion du Christ. Et quand ces personnes participent à l'Eucharistie, au moment de la petite élévation, elles offrent par Jésus, avec lui et en lui, le sacrifice de leur foyer brisé. Ou plus exactement, j'insiste, puisque ce n'est pas la souffrance qui plaît à Dieu dans nos épreuves, c'est le sourire que nous conservons au milieu de ces épreuves, la rose de notre sourire au milieu des épines. Et comme dit Thérèse, mon chant sera peut-être plus mélodieux quand les épines seront longues et piquantes. Tu vois, Seigneur, je ne t'en veux pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas pourquoi tu permets cette épreuve, et il n'y a rien à comprendre. Mais si tu le permets, c'est que tu as des raisons que je découvrirai dans le ciel.
Père d'Escouvement, est-ce que ça existe des couples qui vivent heureux toute leur vie ?
Oh, bien sûr. Oh, il suffit de regarder certaines célébrations de noces d'or, de noces de diamants. Bien sûr qu'il y a encore aujourd'hui des époux qui sont très heureux. Mais je peux dire que les époux chrétiens d'aujourd'hui ne cèdent à aucun triomphalisme. Par exemple, des époux qui me disent « Nous avons 7 enfants. Ils sont tous mariés à l'église. Tous nos petits-enfants sont baptisés. Je vous prie de croire que ces gens-là ne pavoisent pas. Ils se demandent pourquoi Dieu permet un tel bonheur dans leur vie. Ils savent qu'il y a tellement de divorces un peu partout qu'ils ne se glorifient pas, heureusement d'ailleurs, qu'ils ne se glorifient pas d'un tel bonheur familial. Hein, c'est évident qu'aujourd'hui, dans la plupart des familles les plus chrétiennes, il y a des divorces en perspective ou des divorces accomplis. Et c'est vraiment l'une des grandes épreuves des foyers chrétiens, de voir que leurs enfants ne vivent plus comme ils auraient désiré. Et les parents doivent ne pas se culpabiliser d'avoir de telles épreuves. Hein. C'est vraiment une grande épreuve d'aujourd'hui. Encore une fois, ceux qui n'ont pas ces épreuves-là se demandent pourquoi Dieu leur a donné un tel bonheur.
Père d'Escouvement, que diriez-vous aux couples qui nous écoutent en ce moment et qui traversent une épreuve ?
Eh bien, de ne jamais désespérer devant les difficultés et de croire vraiment que Dieu qui permet les épreuves donne la grâce. Dieu qui fait les croix fait aussi les épaules et nul ne l'égale dans l'art des proportions. Si Dieu permet telle épreuve dans ma vie, il va me donner ce qui est nécessaire pour la supporter. Mais encore une fois, c'est facile de dire cela devant un micro. C'est beaucoup plus difficile de le vivre au quotidien. Je dirais même que c'est impossible. Il faut une grâce très spéciale du Saint-Esprit pour accepter nos épreuves. Le prêtre le rappelle d'ailleurs une fois sur deux. avant d'introduire le Notre Père de la messe, unis dans le même esprit, nous pouvons dire « Père, que ta volonté soit faite ». Accepter la volonté de Dieu, offrir ses souffrances, ce n'est pas naturel, c'est surnaturel.
Accepter la volonté de Dieu qui veut notre bonheur. Merci beaucoup, Père Descouvement, pour cet entretien.
Merci aussi.
Vous pouvez retrouver le Père Descouvement dans ses nombreux écrits. Il a notamment publié aux éditions Fayard un livre intitulé « Le mariage dans tous ses états », ainsi qu'un autre livre qui a pour titre « Guide des difficultés de la vie quotidienne ». Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi retrouver le Père Descouvement à Pensier à la communauté du Verbe de vie l'année prochaine. Il viendra animer une récollection sur le thème suivant « Soyez toujours dans la joie ». Elle aura lieu du vendredi 26 janvier 2007 au soir au dimanche 28 janvier 2007 à 15h. Elle est ouverte à tout le monde. Pour vous inscrire ou pour tout renseignement sur les retraites organisées par la communauté du Verbe de vie, vous pouvez appeler le numéro suivant 026 684 26 58. Je répète, la communauté du Verbe de vie au 026 684 26 58. Si vous souhaitez commander un enregistrement de cette émission sur disque ou sur cassette, vous pouvez appeler le numéro suivant 026 422 18 91. Je répète, 026 422 18 91. Cette émission sera rediffusée le mardi 14 février à 23h. C'était Camilla Gross au micro. Je me réjouis de vous retrouver bientôt dans un autre coin de ciel.